Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 13h sur Radio Aviva. La météo dans l'Hérault.
Bonjour à toutes et à tous, le temps est ensoleillé aujourd'hui sur la totalité du département. Les températures varient entre 15 degrés à Lunel et 16 degrés à Montpellier. Demain mardi, un temps pluvieux s'imposera dans l'Hérault. On attend 11 degrés le matin à 7 et 16 degrés l'après-midi à Montagnac. Je vous souhaite de passer un très bel après-midi à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour, le chanteur Kenji Girac hospitalisé aujourd'hui à Bordeaux. L'artiste a été touché par balle la nuit dernière au niveau de la poitrine. Les faits se sont déroulés sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarros dans les Landes. Son pronostic vital n'est désormais plus engagé. Il est conscient, il a pu être entendu par les enquêteurs. Kenji Girac a évoqué un accident domestique, peut-être dû à une mauvaise manipulation d'une arme. Une enquête est ouverte. Gabriel Attal en déplacement à Nice aujourd'hui. Le Premier ministre est venu inaugurer un internat expérimental qui sera ouvert pendant les vacances scolaires pour accueillir des élèves décrocheurs et primo-délinquants. Objectif, les couper de leur mauvaise fréquentation. À Béziers, Robert Ménard, lui, veut instaurer un couvre-feu dans sa ville pour les enfants de moins de 13 ans. Le maire biterrois souhaite le mettre en place du 15 juin au 15 septembre durant les week-ends et les périodes de vacances scolaires pour lutter contre les violences entre jeunes. L'élu prendra un arrêté en ce sens aujourd'hui. Presque un an et demi après le verdict rendu en première instance, le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Deux des condamnés seront une nouvelle fois jugés pour leur participation à ce drame qui avait fait 86 morts et 450 blessés. C'était sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Plus de 2500 personnes se sont constituées partie civile. Parmi elles, 230 ont prévu de s'exprimer à la barre. Ce procès en appel doit durer jusqu'au 14 juin. Les contrôleurs aériens menacent de faire grève ce jeudi. Le trafic pourrait donc être perturbé dans de nombreux aéroports. Il dénonce le contenu d'un protocole en cours de négociation visant à réorganiser le travail des contrôleurs. Les syndicats réclament en contrepartie une hausse des salaires. Et puis, première étape réussie pour Sophie Adenau, l'astronaute française sélectionnée pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. Après un an d'entraînement, elle vient de terminer la première phase de sa formation au Centre Européen des Astronautes à Cologne, en Allemagne. Elle reçoit son diplôme aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à notre écoute.
Tout de suite, retrouvez l'actualité nationale et internationale de nos correspondants à Paris.
Bonjour Margot.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. Trois Israéliens ont été percutés ce matin par une voiture dans le quartier de Romema, Jérusalem. Les deux terroristes qui ont tenté d'ouvrir le feu sur les victimes ont été arrêtés. Les forces de police ont donc arrêté les suspects. Le terroriste qui a assassiné il y a 10 jours le jeune Binyamin Hachimer, 14 ans, a été appréhendé cette nuit par les forces de sécurité israéliennes. Il s'agit d'un assaillant âgé de 21 ans et originaire du village de Douma dans la région de Binyamin. En prévision de la future opération de Tsahal à Rafah, Israël devrait considérablement étendre la zone humanitaire à Gaza depuis Al-Mawazi dans le sud jusqu'à la périphérie de Nuseirat au centre. 1 million de personnes déplacées pourraient être accueillies. 5 hôpitaux de campagne supplémentaires ont également été construits. 62%, c'est la proportion d'Israéliens qui estiment que les responsables des échecs du 7 octobre doivent démissionner. C'est en tout cas ce qu'indique un sondage mené par l'Israel Democracy Institute. 51% des sondés pensent notamment que des élections devraient avoir lieu avant la fin de l'année. À noter que le chef du renseignement militaire israélien a annoncé ce matin sa démission en reconnaissant sa responsabilité dans l'échec du renseignement qui a conduit au massacre du 7 octobre. Alors que des informations ont circulé ce week-end affirmant qu'Israël craignait que seulement 40 des 133 otages aux mains du Hamas soient encore en vie, le Shin Bet a démenti hier ces chiffres. Les détails avec notre correspondante sur place, Cathy Bisraor.
Oui, d'abord, il faut rappeler ce qui s'est passé hier dans un des grands médias britanniques et également d'ailleurs américains. Des informations dramatiques ont été publiées, comme quoi, en fin de compte, sur les 133 otages, il y aurait seulement 40 qui seraient actuellement vivants et tous les autres auraient soit péri, soit été assassinés par le Hamas. Ce sont les informations qui ont été diffusées à l'étranger. Vous imaginez évidemment l'émoi qu'a pu provoquer de telles informations. Il faut rappeler également qu'il y a énormément de fausses informations qui circulent autour de ces otages depuis des mois et des mois maintenant. Maintenant, vu la gravité de ces informations, d'une manière exceptionnelle, le Shabak, c'est-à-dire le Shin Bet, le service de la sécurité intérieure, qui sont responsables, qui coordonnent en fait compte toutes les informations sur les otages, sont intervenus et ont démenti ces informations en disant que contrairement à ce qui avait été publié, parce qu'il avait été publié que c'était les informations venaient directement du Shin Bet, des services de la sécurité, le Shin Bet dit hier soir, ce ne sont pas nos informations, ce ne sont pas nos sources. Nous n'avons absolument pas donné ces informations, donc démenti catégorique des forces israéliennes. Ceci dit, il faut tout de même rappeler que sur les 133 otages qui sont retenus, qui sont aux mains du Hamas, on sait, et en Israël on a reconnu que 36 sont, le Hamas détient des corps d'otages, et c'est clair qu'une beaucoup d'inquiétudes sur un certain nombre d'autres otages, notamment des personnes âgées. Cette information avait été déjà diffusée par les services israéliens. Et malheureusement, en tout cas, Israël n'a pas d'informations très claires sur ce qui se passe dans l'état de ces 133 otages.
Israël convoquera ce lundi les ambassadeurs de 6 des 12 pays qui ont voté la semaine dernière en faveur de la résolution de l'Algérie concernant l'adhésion des Palestiniens à l'ONU. Sont concernés la France, le Japon, la Corée du Sud, Malte, la Slovaquie et l'Équateur. À noter que les États-Unis avaient opposé leur veto. Le Royaume-Uni et la Suisse se sont quant à eux abstenus. Ce serait une première. Le gouvernement américain prévoirait d'imposer des sanctions contre le bataillon Netzar Yehuda de Tzal. La raison invoquée, des violations présumées des droits de l'homme sur des Palestiniens en Cisjordanie. Le ministre israélien de la Défense, qui s'entretiendra prochainement avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, demande d'agir à tous les niveaux pour faire comprendre à Washington l'importance de soutenir les opérations de Tzal qui sont menées dans le respect du droit international. Fermez les guillemets. Depuis l'attaque terroriste du Hamas sur Israël le 7 octobre, les campus américains sont le théâtre de tensions. À l'université new-yorkaise de Columbia, des étudiants pro-palestiniens manifestent depuis plusieurs jours et réclament que la prestigieuse école coupe ses liens financiers avec Israël. Raphaël Usan.
Protestant contre la guerre menée par Israël à Gaza, des étudiants pro-palestiniens de l'université new-yorkaise de Columbia, qui a un programme d'échange avec Tel Aviv, réclament que l'établissement boycotte toute activité en lien avec Israël. Une centaine d'entre eux qui avaient lancé une occupation des pelouses du campus ont été interpellés jeudi par la police. Selon le journal étudiant Columbia Spectator, un groupe d'une dizaine de contre-manifestants pro-israéliens a été confronté à des cas d'antisémitisme sur le campus ce samedi soir, d'après des entretiens avec des étudiants et des vidéos.
Et ce dimanche, à la veille de la Pâque juive qui commence ce soir, Joe Biden a fustigé les récentes manifestations anti-israéliennes qui ont eu lieu à l'Université de Columbia.
Le président américain a qualifié d'antisémitisme flagrant le harcèlement et les appels à la violence contre les juifs au milieu des manifestations anti-israéliennes intensifiées à l'université de New York. Le silence est complicité. Même ces derniers jours, nous avons été témoins de harcèlement et d'appels à la violence contre les juifs, a-t-il déclaré avant d'ajouter cet antisémitisme flagrant est répréhensible et dangereux et n'a absolument pas sa place sur les campus universitaires ni nulle part ailleurs dans notre pays. La nuit dernière, le campus de l'université de Columbia a été le théâtre d'une nouvelle scène ubuesque. Des militants pro-palestiniens ont formé une chaîne humaine pour repousser des étudiants juifs, tout en leur disant de retourner en Pologne et que le 7 octobre sera chaque jour pour vous.
Des manifestations qui sèment l'inquiétude parmi les juifs sur le campus et dans les communautés juives dans leur ensemble.
Dans une lettre rapportée par la chaîne américaine CNN, le rabbin orthodoxe de l'université Eli Bushler a déclaré que les manifestations anti-israéliennes quasi quotidiennes étaient terribles et tragiques, ajoutant que même si cela le peinait profondément, il recommandait aux étudiants juifs de rester chez eux jusqu'à ce que la réalité sur le campus et aux alentours s'améliore considérablement. Ce n'est pas notre travail en tant que juifs d'assurer notre propre sécurité sur le campus. Personne ne devrait avoir à endurer ce niveau de haine, encore moins à l'école, a-t-il écrit. Suite à cette lettre de Bushler, l'Université de Columbia a accepté d'autoriser les étudiants juifs à suivre les cours à distance. Les républicains, de leur côté, se sont emparés du sujet et après une audition houleuse au Congrès, la présidente de l'Université de Pennsylvanie, Elizabeth McGill, puis son homologue d'Harvard, Claude Inge, ont démissionné respectivement en décembre et en janvier.
Merci Raphaël Usan pour toutes ces précisions. Après une première semaine consacrée à la sélection du jury, le procès de Donald Trump entre ce lundi dans le vif du sujet en abordant les accusations contre l'ancien président. Il lui est reproché pour rappel d'avoir dissimulé des paiements pour acheter le silence d'une ancienne actrice pornographique. L'affaire le menace d'une possible peine de prison et cela à quelques mois de la présidentielle. C'est une hausse record des dépenses militaires dans le monde depuis 2009. Elles ont atteint l'an dernier 2400 milliards de dollars. C'est une augmentation de 6,8% en 2023. En cause, les conflits en cours, précise l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Une base de la coalition internationale anti-djihadiste a été visée hier en Syrie par des roquettes tirées depuis l'Iran. Une vaste opération de recherche et d'inspection a été lancée dans la province de Ninive pour retrouver les auteurs des tirs. La Pologne se dit prête ce matin à accueillir sur son territoire des armes nucléaires. Elle précise que cette question fait l'objet depuis un certain temps de discussions entre Varsovie et Washington. La Russie a réagi en affirmant que si tel était le cas, elle prendrait des mesures pour garantir sa propre sécurité. Près de 500 jours après le verdict rendu en première instance, le procès en appel de deux proches de l'auteur de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais s'est ouvert ce matin. Ils avaient été condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. L'auteur de l'attentat qui avait fait 86 morts et 450 blessés avait été tué le jour même. Le procès de l'homme accusé d'avoir insulté puis roué de coups un fidèle juif devant sa synagogue du 20e arrondissement s'est tenu vendredi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'auteur des faits a été condamné à 3 ans et demi de prison. Laurence Goldman, vous avez suivi cette audience pour RCJ.
Oui, une peine lourde prononcée à l'issue de 6 heures d'audience pour une sanction qui est allée au-delà des réquisitoires de l'avocat général et dont les avocats des parties civiles se sont félicités, évoquant un signal fort de la justice. Le caractère antisémite de cette agression extrêmement violente a été reconnu et le coupable a été condamné à de la prison ferme. Les faits, on s'en souvient, remontent au 1er mars dernier. Il est 17h30 lorsque Marco, un homme de 62 ans, attend le début de l'office de Shabbat devant sa synagogue de la rue des Orthos à Paris. Il est alors insulté par un individu. « Sale juif, c'est toi qui tues des gens à Gaza ?» Puis il est frappé à coups de poing et de pied. Inanimé, Marco sera conduit à l'hôpital, la mâchoire cassée et victime de traumatisme crânien. Interpellé quelques jours plus tard, l'agresseur est placé en détention provisoire. Lors de l'audience vendredi, Marco a témoigné à la barre, faisant part de sa stupeur et de ses craintes. Aujourd'hui, a-t-il dit, j'ai peur que ce monsieur sorte de prison. Il habite à 100 mètres de la synagogue. J'ai peur qu'un jour, il m'assène un coup de couteau. Mais après l'énoncé du verdict vendredi soir, Marco faisait part de son soulagement et de sa satisfaction.
Je suis très, très soulagé et je trouvais que la justice a été parfaite. Parfaite, exemplaire. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je suis satisfait, je me sens rassuré et je suis content pour toute la communauté juive qui se sente un peu. J'ai l'impression que j'ai servi à les aider. Il y a de la justice, qu'il y a une part de justice qui va les rassurer maintenant.
L'agresseur de Marco, un homme de 32 ans d'origine guadeloupéenne, a également été condamné pour avoir en 2022 harcelé une famille juive ultra-orthodoxe de ce même 20e arrondissement de Paris. Menace de mort à l'encontre du père de famille, insulte adressée à son fils et sa femme, les traitant d'Amalek, d'imposteur qui plagie, je cite, l'identité de mes ancêtres. Car le profil de l'assaillant interroge, comme l'explique Maître Serfati, l'avocat de Marco.
Fait singulier dans cette affaire particulièrement grave, le prévenu vient expliquer que les Noirs, les Nègres, nous dit-il, ont un droit sur la terre d'Israël. C'est une thèse qui pourrait faire sourire, mais qui n'est pas spécialement marrante, qui provient outre-Atlantique d'un rappeur extrêmement connu, Kanye West, qui depuis 2021-2022, je l'ai appris moi de la bouche de celui qui était le défenseur du prévenu lors de la précédente audience en mars dernier. Effectivement, les héritiers des nègres, nous explique-t-il, revendiquent un droit absolu sur la terre d'Israël au détriment du peuple juif. En tout cas, c'était les mots et les explications du prévenu ce soir.
Maître Serfati, l'avocat de Marco, outre sa condamnation à de la prison ferme, le coupable a interdiction de se présenter devant des synagogues, d'entrer en relation avec les victimes, avec obligation de les indemniser pour les dommages qu'elles ont subis.
Merci Laurence Goldman pour toutes ces précisions. Alors que début mars, un drapeau palestinien a été peint sur les marches de l'escalier de la butte Sainte-Anne à Nantes, le collectif Nous Vivrons y a adossé cette nuit un drapeau israélien. L'objectif, dire non à l'importation du conflit en France et dire oui à l'autodétermination des peuples israéliens et palestiniens. Le projet de loi sur la fin de vie arrive ce soir à l'Assemblée. La commission spéciale va mener pendant un mois des auditions. Elle va également éplucher le texte et ses amendements. Première sur la ligne, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, entend expliquer notamment comment parvenir à un équilibre sur ce texte hautement sensible. Kenji Girac a été blessé par balle cette nuit sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes. Il a été touché au niveau de la poitrine. Le chanteur, dont le pronostic vital n'est plus engagé, a été hospitalisé à Bordeaux. Conscient, il a été entendu par les enquêteurs et fait état d'un accident domestique et d'une mauvaise manipulation d'une arme. Et enfin, l'Europe a connu en 2023 un nombre record de jours où la chaleur ressentie a été extrême pour le corps humain, à savoir au-delà de 35 ou de 40 degrés. On parle même de stress thermique extrême lorsque la température ressentie a dépassé l'équivalent de 46 degrés. Par ailleurs, 2 millions de personnes ont été touchées l'an dernier par des inondations ou des tempêtes. Le plus grand incendie de forêt de l'histoire du continent a également dévasté 96 000 hectares en Grèce.
Merci beaucoup Margot Siffer, Laurence Goldman et Raphaël Uzan. On va à nouveau parler de cet antisémitisme qui continue de se manifester dans les universités américaines. Et c'est avec vous, Déborah Munzer.
Le billet d'humeur, Déborah Munzer.
Bonjour à tous. Ce sonore a été pris par des New-Yorkais devant Columbia University. Il s'agit de militants pro-palestiniens, appelons-les purement et simplement des militants antisémites, car pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ils disent « Al-Qassam, vous nous rendez fiers, prenez un autre soldat, nous disons justice, vous dites comment, brûlez Tel Aviv, Hamas, nous vous aimons et nous aimons aussi vos roquettes, rouge, noir, vert, blanc, nous soutenons le combat du Hamas ». Ces militants sur la voie publique new-yorkaise, donc, dont certains ont été arrêtés par la police de New York, faisaient sans conteste l'apologie du terrorisme. Ceci a eu lieu devant l'université de Columbia. Et puis cette nuit, à l'intérieur même des murs de Columbia, des militants ont formé une chaîne humaine pour pousser les sionistes en dehors de leur safe space. Reculez d'un pas pour que nous puissions vous faire reculer à l'extérieur de notre camp. Répétez à l'unisson par une foule qui se tient coude à coude pour faire reculer des juifs qui viendraient trop près dans leur safe space, comprenez espace sécurisé, c'est-à-dire pour l'occasion un endroit sans juifs. Le maire de New York a tweeté « Je suis horrifiée et dégoûtée par l'antisémitisme répandu sur et autour du campus de l'Université de Columbia. La haine n'a pas sa place dans notre ville et j'ai demandé à la police de New York d'enquêter sur toute violation de la loi sur laquelle il serait informé et d'arrêter toute personne qui enfreindrait la loi. » Seul problème, cela vaut pour l'espace public, mais pas pour le site de Columbia lui-même, là où les militants ont planté leur tente et interdisent l'espace central aux Juifs, car Columbia est un espace privé. La police ne peut y intervenir que si l'administration de l'université l'appelle. Le maire ajoute donc « pour la sécurité de tous les New-Yorkais. J'exhorte les hauts responsables de l'administration de Columbia à améliorer et à maintenir une ligne de communication ouverte avec la police de New York afin d'assurer la sécurité de tous les étudiants et du personnel sur le campus. Barry Weiss, l'ancienne journaliste du New York Times, qui est désormais la fondatrice d'un journal en ligne The Free Press, écrit « L'espace d'une seconde, imaginez que les étudiants noirs de Columbia soient raillés, retournés en Afrique, ou imaginez qu'un étudiant gay soit entouré de manifestants homophobes et frappé avec un bâton. » 1,6 million de juifs vivent à New York. C'est la ville qui compte la communauté juive la plus grande du monde. Et une de ses plus grandes universités, Columbia, est en proie avec l'antisémitisme le plus reculé et le plus tribal que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Sur ce, bonne sortie d'Égypte, bonne traversée de la mer Rouge et bon courage aux New-Yorkais de Columbia.
C'était le journal de nos correspondants à Paris. Tout de suite, retour des programmes sur Radio Aviva.
Oh, ce lambeau de la nuit.
Écoutez Radio Aviva partout, tout le temps. Sur la route, à la maison ou au travail, sur notre site radio-aviva.com, sur l'application gratuite pour smartphone et tablette, sur les box, les télés et enceintes connectées en demandant « Je veux écouter Radio Aviva ». Et désormais, profitez aussi de Radio Aviva en DAB+, à Nîmes. La radio numérique disponible sur la nouvelle génération de récepteurs radio et dans votre voiture. Hérosport vous présente l'invité sportif sur Aviva.
Amis sportifs, bonjour. Aujourd'hui, nous revenons sur ce grand rallye, ce Aïcha des Gazelles du 12 au 27 avril 2024. Et nous avons une jeune fille qui participe. Il s'agit de Caroline. Caroline, bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation.
Bonjour, merci à vous de nous recevoir.
Alors dites-moi, comment en êtes-vous venue à ce rallye des Gazelles qui est très célèbre dans le monde entier?
Oui, tout à fait. Ben, écoutez, c'est un projet un petit peu fou qui a commencé pour nous au mois de février cette année, tout simplement en fait avec Mounia, à l'endroit où on travaille, en fait, juste en face, il y avait une voiture de rallye qui était en train de se faire préparer. Et on a discuté toutes les deux tout en regardant cette voiture et en fait on était émerveillés par ce qui était en train de se passer. Et du coup, en papotant comme ça ensemble, on s'est dit, mais ça serait vraiment génial qu'on puisse faire participer à ce genre d'événement, surtout que moi, je suis vraiment une grande fan de tout ce qui est pilotage, voiture, enfin voilà, etc. Et du coup, voilà, on s'est lancé un peu ce projet un peu fou, et tout est parti de là, en une matinée, on s'est dit, allez, on se lance.
Alors, voilà. Vous appartenez à un club, parlez-nous de votre club, si vous le permettez. Oui.
Non, pas de club par contre, non, on ne fait pas partie d'un club, non, pas du tout. Nous, en fait...
Une association, plus exactement.
Voilà, exactement. En fait, nous, il nous tient vraiment à cœur de courir en fait pour une association. Donc, on va courir pour l'association de l'Arieda. Donc, en fait, l'association de l'Arieda, c'est une association qui est régionale et qui est une association qui aide les personnes sourdes et malentendantes, en fait. Donc j'ai moi-même un petit garçon qui est sourd et cette association nous a aidés pendant des années dans son développement, dans sa scolarité, etc. Et du coup, en fait, il nous tenait vraiment à cœur de renvoyer un peu l'ascenseur et voilà, c'est vraiment pour eux qu'on participe du coup à ce rallye.
Alors c'est un pari fou quand même de se lancer dans ce rallye.
Oui, tout à fait.
Parce que vous avez déjà une idée quand même des précédents rallyes de Aïcha des Gazelles.
Oui, parce que c'est quand même quelque chose, Mounia et moi, qu'on suivait de loin, mais qu'on suivait quand même. Donc oui, c'est vraiment beaucoup de préparation. Donc voilà, on est en plein dans la préparation actuellement.
Alors c'est 100% féminin, 190 équipages sur la ligne de départ.
Oui, c'est ça.
Vous êtes le seul équipage français?
Non, on est nombreuses, et notamment il y a quand même pas mal de filles de la région également. On est nombreuses gardoises.
Alors, bien évidemment, vous êtes au cœur du désert marocain.
Oui.
Et aucun repère?
Aucun repère, donc c'est vraiment de la navigation à l'ancienne. Donc, on part avec notre carte et notre boussole uniquement.
Et oui, parce que c'est uniquement en hors-piste.
Exactement, c'est uniquement un hors-piste, donc voilà, donc là on se prépare justement à tout ce qui est orientation.
Et on vous interdit d'avoir un GPS, vous aurez une carte comme vous venez de le dire, une boussole et une règle de navigation.
Exactement.
Donc vous avez déjà au départ une étude de la navigation et une étude des objectifs à atteindre.
Exactement, c'est ça.
Alors bien sûr, n'oublions pas que l'équipage gagnant sera celui qui aura parcouru le moins de kilomètres et qui aboutira au but, pointant un maximum de balises éco-concept. Explique-nous un petit peu ce que sont ces balises.
Donc en fait, le matin, on va se retrouver avec une carte. Et sur cette carte, en fait, seront marquées des balises. Donc en moyenne, on a 6, 7, 8 par jour environ. Et en fait, on doit parcourir, donc on doit en fait récupérer des balises en temps et en heure quelque part. Et il ne faut pas qu'on soit hors délai. Et il faut qu'on en récupère le plus possible dans la journée, mais en effectuant le moins de kilomètres possible.
Voilà. Donc vous allez avoir pendant 9 jours 6 étapes, dont 2 marathons.
Oui, tout à fait. Il y a 2 marathons, exactement.
Alors vous allez vous entraîner à la fois sur le plan moral, psychologique, physique.
Oui. Donc nous, l'entraînement a déjà un peu commencé. Donc avec Mounia, sur le plan physique, on s'entraîne pas mal au niveau du cardio. Hein, on fait pas mal de footing. Sur le plan mécanique, on a fait un stage récemment de mécanique. D'ailleurs, on s'est aperçu que changer une roue d'un 4x4, ce n'est pas la roue d'une voiture. Donc, il va falloir aussi qu'on commence un peu à muscler nos bras pour être un peu plus à l'aise. Et puis après, on va avoir une préparation aussi à l'orientation, bien entendu.
Vous connaissez depuis longtemps quand même avec Mounia, parce que pour conduire pendant une dizaine de jours et être côte à côte, il faut quand même avoir s'entendre à 100%.
Oui. Mounia, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Et puis, on s'entend très, très bien. Et on a deux caractères qui se complètent très bien. Voilà. Mounia est plus à l'anticipation. Et moi, c'est un petit peu le contraire. Mais voilà, on a deux caractères qui se complètent très bien. Et voilà, je pense que ce sera une très, très bonne coéquipière.
Alors, si vous permettez, on va clôturer en vous demandant, est-ce que l'objectif de cette course rallye, est-ce qu'on a fixé un objectif avec Mounia?
Alors nous, notre objectif, ça va être d'arriver à Essaouira. Voilà, c'est notre objectif.
D'abord. Et ensuite, peut-être, en fonction du parcours, ça sera la victoire.
Exactement.
Caroline, merci de nous avoir répondu, merci de nous avoir éclairé et nous vous souhaitons bonne chance et rétablissement pour votre fils. Au revoir.
Merci pour votre accueil, merci.
Something dies doesn't mean that it's over. We're not like them. We don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. Two broken parts from the same old junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So
it shouldn't be this hard. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made.
Sortir, de danser, de s'amuser, de vous détendre.
Rejoignez le club Aviva et profitez de cadeaux et d'invitations tout au long de l'année. Danse, festival, théâtre, concert, Radio Aviva met à votre portée le meilleur des sorties.
Inscrivez-vous sur le site www.radio-aviva.com pour rejoindre le club.
Yes. On m'appelle comment? Et Martinez, you ready girl?
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vivant, ton love, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you, hey.
Dorian et compagnie sur Aviva. La culture au quotidien.
Angélique, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes astrologue et c'est pas tous les jours que nous avons une astrologue dans nos établissements, donc dans à Radio Aviva. Mmh. Alors, ma première question, j'ai feuilleté un petit peu votre CV. J'ai vu que vous aviez fait des études classiques, l'école du Louvre, etc. Oui. Alors, ma question, ma toute première question, c'est comment, après des études comme ça, on devient astrologue? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une appétence particulière?
Il y a une bonne partie due au hasard et aux événements de la vie, puisque j'ai eu un chagrin d'amour.
Oui.
Et alors que j'étais en larmes au téléphone, mon frère, qui était compatissant, m'a dit « Ah, oh, il est scorpion, tu verras ». Et moi, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Bouh, j'ai pleuré. Et 3 jours après, je reçois par la poste 2 livres. Le premier, c'était « L'ABC de l'astrologie ». Et le deuxième, c'était « Connaissez-vous par votre signe astral ». Donc le premier, je l'ai mis de côté, je lui ai dit « C'est quoi ? J'y comprends rien ». J'ai mis ça de côté. Et le deuxième, j'ai commencé à lire, évidemment, la partie des scorpions. Et je commence à rire parce que je retrouve les caractères de mon ex, en fait, mon ex malgré moi, bien sûr. Et je commence à rire. Et je commence à regarder aussi pour le mien. Et je trouve que c'est hyper juste. Je fais « Waouh, mais c'est génial ce truc ». Donc évidemment, je dévore tout, je regarde tout mon entourage. Et il se trouve que quelques temps après, je rencontre dans le métro une vieille dame. Enfin, moi, je trouvais qu'elle était vieille, mais en fait, réflexion faite, elle n'était pas si vieille que ça, elle avait 72 ans. Et c'était une ancienne femme militaire de l'armée qui était décorée de la Légion d'honneur. Enfin, j'ai su ça, mais des années après. Et donc, on sympathise dans le métro. Comme quoi, le métro, c'est important.
C'est un lieu de rencontre.
C'est un lieu de rencontre. Et donc, on a échangé nos coordonnées. Elle lisait un livre que je trouvais marrant. Et je lui dis, écoutez, on peut échanger nos coordonnées. Elle me fait, pourquoi? Je lui fais, je sais pas, c'est un signe. Et elle fait, ah bon, alors si c'est un signe, d'accord. Et on échange nos coordonnées. Et une semaine après, elle m'appelle et elle me dit, je vais vous faire votre thème. Et ça a commencé comme ça, en fait.
Comme ça. Donc, on vient d'apprendre quand même que les scorpions et les vierges, ce n'était pas toujours évident puisque vous êtes du signe de la vierge. Alors, après, vous vous définissez comme médium, voyante, magnétiseur, astrologue, qu'est-ce qui prime et quelle est la différence? Alors, je vais vous demander d'être rapide parce que le temps, hélas, imparti est.
Alors, une médium est automatiquement voyante alors qu'une voyante n'est pas médium. Une médium fait le lien entre une réalité et une autre, comme les peintres qui sont médiums, qui vont voir, percevoir quelque chose et le transmettre avec leur technique. Donc, tout le monde, plus ou moins, est médium à différents niveaux. Donc, il se trouve que moi, je suis comme ça depuis ma naissance, je suis différente. Donc, hypersensible, en fait. Je suis magnétiseur parce que c'est ma nature. J'ai toujours été comme ça. Ça s'est accentué avec les événements de la vie et en mûrissant. Et astrologue, eh bien, donc, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, l'astrologie s'enseigne, s'apprend, se pratique. Et c'est une langue comme on apprendrait les hiéroglyphes ou les partitions de piano avec le solfège.
Voilà, et c'est une langue, donc il faut la travailler.
Oui.
Alors, vous, justement, est-ce que vous êtes dans les prévisions quand vous avez quelqu'un en face de vous? Est-ce que vous êtes dans les prédictions, dans les prévisions? Est-ce que vous ressentez, comment vous ressentez la personne? C'est à travers son thème que vous travaillez ou c'est le ressenti personnel?
C'est une très bonne question. Dans un premier temps, alors je fais ça systématiquement pour tout le monde, avant de commencer une consultation en médiumnité par exemple, qui est forcément aussi de la voyance, je montre le thème de la personne et je le lui explique. Parce que ça montre un peu les courants planétaires. Donc on sait que si on est à contre-courant, ce sera plus difficile et on voit tous les points forts et les points à contourner. Maintenant, il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Donc, on sait quand, mais pas quoi. Alors qu'en médiumnité, on sait quoi, mais on ne sait pas quand, parce qu'il n'y a pas accès au temps.
Alors, est-ce que vous pouvez vous définir comme, en fait, une accompagnatrice de personnes? Comment vous vous définissez? Vous les revoyez, ces gens? Vous les guidez? Ou ça s'arrête là? C'est une consultation qui s'arrête là?
Alors, je n'ai jamais mis personne en dépendance.
Voilà.
Parce que je suis moi-même très indépendante. Je laisse les gens choisir. Je pense que les gens sont grands et savent ce qui est bon pour eux. Et s'ils veulent revenir, ils reviennent. J'aime pas que les gens se fidélisent trop parce que une information souvent, alors en temps de crise éventuellement ça peut être 2-3 mois où la personne vient quand elle veut, quand elle le souhaite, mais normalement une fois tous les 6 mois, une fois par an. J'ai des gens que je revois au bout de 10 ans, j'ai des gens depuis 25 ans.
Donc vous n'êtes pas dans la dépendance, non, comme monsieur Détor, le maire d'Agde, était vis-à-vis de sa voyante.
Non,
dont on a beaucoup
pas
parlé.
Non, voilà. il faut être libre et y aller quand on le ressent. Et en plus, il y a un feeling qui se passe avec la personne qu'on vient consulter. Donc il faut se sentir bien, c'est un passage récréatif, c'est pour vous. Donc c'est quelque chose qui vous fait plaisir, que vous vous consacrez du temps. Moi je suis à l'écoute, mais avant d'être à l'écoute, je dis ce que je perçois au niveau astrologique, ce qui me paraît être du bon sens. Après, c'est un ressenti, donc ça c'est ma médiumnité, je peux avoir des flashs, je suis clairaudiente, donc je peux entendre. En général, c'est un mot, mais en général, il tombe juste. Et quand j'ai une image, c'est comme une bande-son au cinéma, enfin une BO au cinéma. Donc je vais voir quelque chose, mais je ne vais pas extrapoler, je reste sur l'image que j'ai. Sinon, on peut se tromper. Je n'interprète pas, je dis, est-ce que ça a du sens pour vous ? Et après, je laisse un temps de parole. Parce que moi, quand je ne savais pas que j'étais médium, je suis allée consulter.
Alors, moi, je vais conseiller peut-être à tous nos auditeurs qui vous écoutent, certainement avec grand intérêt, peut-être un ouvrage que j'ai sous les yeux qui s'appelle « Le manuel d'astrologie spirituelle ». J'insiste sur l'adjectif « spirituel ». Alors, en deux mots, pourquoi « spirituel » ?
Alors, c'est l'expérience de toute ma vie, puisque je suis aussi thérapeute holistique.
D'accord.
Donc, j'ai suivi des séminaires de développement personnel, mais spirituel aussi, avec des initiations, où on a eu aussi des phrases de sagesse. Et puis, j'ai suivi des séminaires de Kriyananda, qui était lui-même un disciple de Yogananda, et je lui ai consacré un chapitre entier de toutes les phrases de sagesse. Et donc, il y a de la réflexion qui nous amène non seulement à nous comprendre, mais à nous élever spirituellement.
Alors, Angélique, je suis persuadée que cette émission est vraiment suivie. Si on veut vous contacter, est-ce qu'on peut le faire et vous nous donner peut-être vos coordonnées ?
Ah, c'est gentil, Angélique. Merci. Alors, angélique.fr, c'est mon site web que je suis en train de retravailler. Donc, soyez un tout petit peu patient s'il n'est pas pile poil parfait. Il est en cours de perfection. Après, mon adresse mail, c'est angélique@angélique.fr.
Alors, c'est facile. Alors, on va le répéter. angélique@angélique.fr.
Voilà.
Voilà. Je crois qu'on sait tout sur vous. Peut-être pas tout, mais on a, voilà, suffisamment d'éléments pour vous contacter. Merci encore, Angélique. Et merci. Je vous dis à très bientôt, certainement.
Merci infiniment.
C'était Culture et Compagnie sur Aviva. La culture au quotidien.
Quand au fond du camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, force me quitte, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment.
route entre Nîmes, Montpellier et Perpignan, Radio Aviva.